en Amérique, ils prenaient un bateau, ils partaient pendant des années.
Claudine Payès.
Donc, la famille survivait sans eux. Ça posait des problèmes économiques. On disait que c'était les femmes ou les plus vieux qui faisaient les travaux, des champs, etc. Ça posait aussi beaucoup de problèmes psychologiques quand même. Bon, le père de famille qui était absent pendant des années, qui ne voyait pas grandir ses enfants, les épouses qui n'avaient pas leur mari, enfin bon. C'était la condition de la survie.
Tous les bateaux n'acceptaient pas les autres. Je mets à leur place aussi.
Adrien Ponsol.
Donc, ils partaient en bateau, il y en a beaucoup, depuis Glasgow. Ils voyageaient avec l'ours dans la cale du bateau, sachant qu'il fallait le nourrir, l'ours. Alors, ils travaillaient sur le bateau pour pouvoir nourrir l'ours. Et après, je ne vous explique pas quand même la vie dans une cale de bateau avec une bête. Ça ne devait pas trop lui plaire d'être enfermé à l'eau. Il y a donc mon arrière-grand-père qui était parti. Et j'ai fait la connaissance d'une dame qui s'appelle Françoise Lévis, qui vit au Canada. Une passionnée, elle fait beaucoup de recherches. Je crois que c'est sa grand-mère qui était sortie du village de Cominac. Donc il y a quand même des attaches lointaines. Et un jour, elle a proposé de faire une réunion à la mairie. Et elle avait toute une liste, non ? Et il y en a un qui m'a sauté aux yeux, c'était pas bien écrit, mais elle avait dit, c'est des trucs qu'elle avait relevés dans les commissariats de police, parce que souvent ils étaient arrêtés, et donc c'est comme ça qu'elle a retrouvé les traces, et il y avait un Bernard Maury, donc c'était mon arrière-grand-père.
La vallée des montreurs d'ours, deuxième épisode. Des paillettes et des ours. Un documentaire de Marion Touboul, réalisé par Thomas Duterre.
Là, la liste, vous l'avez devant vous, c'est ça ?
La liste, voilà, devant nous, avec pas mal de noms de famille, pas mal de familles représentées de la vallée. Il y a pratiquement toutes les familles qui ont un ancêtre montreur d'ours. Et sur RC, ça représente un peu plus de 400 personnes. Ce qui est quand même pas mal, puisque en 1850, on avait 4000 habitants sur RC. L'exode rural a fait que la population a baissé, mais sur une période de 60-70 ans, on a quand même donc 400 personnes qui ont été montreurs d'ours. Dont certains ont passé quelques années, voire quelques décennies, à montrer l'ours dans le monde entier.
Patrice Rieux, descendant d'un montreur d'ours.
Alors, on a le nom, le prénom. Donc d'état civil, et on a aussi le sobriquet. Le sobriquet, c'est le second nom, le nom de la maison où habitaient les personnes, qui va nous permettre de différencier un Janko, parce qu'il y a beaucoup de Janko, il va y avoir beaucoup de Jean Barat, et sans le sobriquet, on ne s'en sortirait pas. La date de naissance, la date de décès va aussi nous aider, mais sans le sobriquet, ça serait cause perdue.
Là, par exemple, on a François Peyrat. Lui, il a été à La Havane, aux États-Unis.
Oui, alors François Peyrat, dit Mathielas, né en 1860, décédé à RC en 1940. Il est parti en Amérique, a priori aux États-Unis, en 1886. Il était à New York en 1891. Il est passé par La Havane en 1892, revenu aux États-Unis en 1893. Tous les endroits où il est allé, on arrive à retrouver ces quelques dates, ces quelques lieux, dans le carnet de Saltimbanque. Les montreurs d'ours demandaient un carnet pour pouvoir montrer l'ours. On retrouve ça au niveau des enregistrements des paquebots, des transporteurs maritimes qui amenaient les montreurs d'ours aux États-Unis ou ailleurs. Françoise Lewis a beaucoup travaillé sur les journaux aux États-Unis, au Canada. Voilà la chance d'être bilingue.
Alors Françoise, nous en avons entendu parler il y a fort longtemps et elle a fait des recherches concernant ses aïeux.
Bernadette Rogal.
Qui était montreur d'ours. Et elle est venue sur Aulus et elle est venue bien sûr rencontrer ma mère qui était l'une des personnes les plus âgées et la mémoire du village. Et Françoise qui avait donc des parents dans un village voisin et venu, bien sûr, dans les autres villages faire des recherches auprès des familles de montreurs d'ours. Françoise Lewis est canadienne, elle vit à Montréal.
Alors peut-être qu'on pourra essayer de l'appeler, non,
François? Ah oui, ce serait formidable de pouvoir lui parler. Ça me ferait vraiment très très plaisir de l'entendre.
Allô?
Oui, allô, Françoise?
Allô? Oui.
Oui, c'est Bernadette ici, à Aulus.
Oh, allô Bernadette, ça va?
Oui, et toi?
Ça me... Ah oui.
Ah, et nous, non.
10 cm de neige.
Oh, dis donc. Et oui, nous, elle est partie, là. Il avait un petit peu neigé. Et là, c'est la pluie qui l'a remplacée.
Oh, j'adore entendre l'accent comme ça de chez nous.
Et nous avons les photos de Jean Job sous les yeux. Et puis surtout, ton livre, Ils ont choisi l'Amérique.
C'était pas facile, hein? Il fallait être courageux, vraiment, pour partir comme ça. Mais je pense que c'était... Tu sais, une fois qu'ils étaient dans ces petits villages de Oost et d'Hercé et tout ça, c'était la liberté aux États-Unis. Les grands, grands paysages. Et puis, tu sais, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient.
C'est sûr.
Si vous voulez aller à gauche et aller à gauche, il n'y avait plus de règles.
Tu as tout à fait raison, parce qu'ici, il y avait le poids des familles qui était vraiment particulièrement étouffant. Et puis surtout, cette misère, parce qu'il y avait le partage de la terre. Il fallait... c'était difficile pour se marier aussi, parce qu'il fallait avoir suffisamment de quoi vivre.
Quand ils naissaient, ils savaient d'avance la vie qu'ils étaient pour avoir. C'était toujours la même chose, de génération en génération.
Baptiste et son ours ont passé leur premier été à New York. Sués sous le soleil de plomb qui accable les rues encombrées et transforme en fournaise leur logis. Fuit vers la mer, d'un bord à l'autre de Manhattan, du Lower East Side au rive de l'Hudson. En quête d'estive, Baptiste a entraîné Martin vers le large, franchi les deux ponts gigantesques vers Brooklyn, découvert un autre monde. Les Américains dans leur quartier résidentiel ont pour le petit bonhomme noireau à béret et son animal le regard suspicieux, le réflexe peureux qui fait se tourner vers le premier agent. Mieux vaut les aborder au bas des immeubles où ils travaillent, aux stations de métro, entre colporteurs, crieurs de journaux, cireurs de chaussures. Baptiste et son ours ont aussi arpenté vers le nord les grandes avenues, la 5e et Broadway, appris à déjouer les pièges du trottoir, les coups de sifflet des policemen, les rappels à l'ordre anti-ours. Il faut marcher, c'est sûr, et parfois détaler, improviser des tours éclairs, des numéros en un clin d'œil, pour une poignée de badauds, une queue à l'entrée d'un théâtre, une descente de fiacre. L'île des larmes. Laurence Hubert Souillon.
Il s'agit de deux Ariégeois, 1886. Ils avaient voyagé à travers les États-Unis et le Canada avec un ours savant. Un jour, ils traversaient le pont de chemin de fer qui franchit le Mississippi à Saint-Louis lorsqu'une locomotive arriva, frappa l'ours et le transforma en steak. Pendant longtemps, ces deux hommes pleurèrent leur pauvre ours, comme ils l'appelaient, et se lamentaient beaucoup sur leur sort quand le train, en tuant l'ours, avait par le même coup tué leur gagne-pain.
Qui est-ce qui a écrit cette lettre ?
Ça, c'est un journaliste. C'est un article sur un journal américain. Il s'appelait Ben Goodking.
Et c'était en quelle année ?
1886.
Claudine Payès.
On a une lettre d'un montreur d'ours en 1892 qui écrit à son frère que son ours a eu les pieds brûlés au Mexique par la chaleur du chemin, ce qui l'empêchait de travailler. Mais il paraît se guérir un peu.
Et donc, vous avez un ancêtre qui était montreur d'ours.
Oui, l'oncle de ma mère, Jean Job, est parti en 1904 montrer l'ours. Et donc, il avait déjà fait son service militaire, il avait déjà travaillé un petit peu. Et il faisait partie d'une famille de 6 enfants. Lui, c'était le deuxième. Et sa sœur aînée a été dotée, mariée, avec une dot assez conséquente pour l'époque, en francs or, pour ne pas justement diviser les terres. Et il avait deux autres sœurs plus jeunes, et il avait toujours travaillé, et tout ce qu'il gagnait était remis à son père. Donc, il a, je pense, voulu avoir davantage d'indépendance, et puis surtout, ses oncles étaient déjà partis montrer l'ours. Donc, il avait été tout petit témoin du dressage des petits ours. Il connaissait tous les tours. Il voyait comment il procédait quand il venait pendant la saison avant de partir, ses oncles. Donc, je pense qu'il a été tenté de faire comme eux. Il est donc d'abord passé par New York. Et ensuite, il est parti au Canada parce que l'une des plus anciennes lettres que nous ayons gardées à la maison, c'est celle qu'il a écrite à ses parents en 1907. Et il dit « Je vous écris ces quelques lignes pour vous donner de mes nouvelles. Elles sont bonnes pour le moment. Je désire que ma présente lettre vous trouve de même. » Et donc là, il fallait lui répondre chez M. Maurice Durac, qui était à Montréal, au Canada. Et cette maison, qui était tenue donc par ce monsieur, était le rendez-vous des montreurs d'ours quand ils étaient à l'étranger.
Il est parti aux États-Unis, là-bas, mon arrière-grand-père. Il a été connu, et il y a des gars qui sont dans le théâtre et tout, qui vous embauchent. Et ils ont repéré des spectacles de rue. Ils lui ont demandé s'il voulait animer les avant-premières des spectacles. C'est là qu'il s'est fait connaître.
Ladies and gentlemen, nous n'avons pas d'éléphant à bord. Mais des hauts sommets de nos montagnes est venu jusqu'à nous cet homme, avec son animal, son fauve. J'ai nommé l'ours.
Un roulement de tambour accompagne l'annonce. Mais l'ours est à l'aise. Il attrape au vol un bâton, salue, se met au garde à vous, puis s'assoit sur un tabouret au bord de la Seine. On lui sert une coupe de champagne. Il boit, se relève, tangue et fait l'ivrogne. Se précipite enfin sur son ours aillé, Baptiste, qu'il fait tomber et traîne sur le plancher.
L'ours s'appelait John L. Sullivan. La star, c'était l'ours. C'était pas du tout le dompteur qui était avec lui. Et John L. Sullivan, c'était un boxeur américain. Voilà pourquoi ils avaient donné son nom là.
Et c'est vrai que l'ours avait un nom. Il y en a un, c'était une ours qui avait eu un énorme succès, l'ours Fatima, qui était d'ailleurs costumée aussi, qui était habillée et tout et tout. Non, il y a des photos justement où elle est avec une sorte de bonnet, une robe. Voilà, c'était l'ours Fatima.
Parce que là, Jean-Job, il était dans ce cirque.
Voilà, il était dans le cirque Sheep and Feltus. Il y a eu d'autres montreurs d'ours qui étaient lutteurs aussi, parce que lui, apparemment, d'après ce qui est dit là, il faisait des tours avec l'ours. Peut-être luttait-il aussi. Elle a retrouvé. Voilà. Ici, par exemple. en 1906 dans le Times démocrate, les bouffonneries du gros ours qui est présenté par professeur Jean Job sont très appréciées autant par les adultes que par les enfants. L'animal est très bien dressé. Et là, il travaille dans le Colonial Theater. C'est à la Nouvelle-Orléans. Il a décroché un engagement et il y joue sous le nom de professeur Job.
Donc il faisait des acrobaties avec l'ours, voilà, dans les théâtres.
Voilà, dans le Colonial Théâtre, là.
Et voici le clou du spectacle. De quoi vous couper le souffle. Le même fauve dans un numéro époustouflant, jamais vu dans un cirque flottant. Les lustres soudain rallumés éclairent une énorme dame gigogne, coiffée d'une perruque poudrée. Sa vaste jupe en taffetas à carreaux rouges et bleus tourne sur elle-même au rythme d'une valse, lentement. Et de ses plis s'échappe une étrange cohorte de caniches vêtues de calicots, de nains à clochettes et encore deux singes en arlequin. Après une double ovation du public, l'ours arrache sa jupe, descend d'un escabeau et se dégage à grand-peine de l'amoncellement de tissus. Il ôte sa perruque, saisit un grand cerceau tendu de papier d'argent. Un chien jaillit des coulisses et traverse le cerceau. L'ours salue, saute une corde et son poids fait vibrer le parquet. Il enlace son maître, s'enroule avec lui dans des rubans de couleur, jongle avec deux quilles et traverse la scène, juché sur une boule rouge. C'est la fin du spectacle.
Faisait le spectacle, voilà. Et il ramassait de l'argent. Il y en a, il me disait, j'en ai connu deux. Ils sont morts très vieux. Ils avaient un âne là-bas pour porter les pièces d'or. Ils portaient les pièces d'or avec l'âne.
Claude Dégille.
Les recettes des journées.
Et donc vous êtes le petit-fils d'un monteur d'ours ?
Oui, oui, oui. Oui, mon grand-père aussi était monteur d'ours. Allez, on a la photo encore.
Comment il s'appelle, votre grand-père ?
Jean-Pierre.
Jean-Pierre.
Ils s'appelaient tous Jean-Pierre et Marie. Des Marie, il y en avait dans cette maison, parce qu'il y en avait 4 ou 5.
Donc Jean-Pierre est parti aux États-Unis ?
Oui, oui. Et l'autre aussi. C'était Jean, l'autre. Oui, voilà. Jean, Jean-Pierre, Pierre.
Il avait travaillé dans un cirque, donc. Il faisait travailler... C'était les ours polaires qu'il faisait travailler.
Des ours polaires ?
Ouais, des ours blancs. Il faisait travailler. Il faisait travailler 5 ours dans une cage. Mais c'est pas avec eux qu'il a eu l'accident. C'était un cirque. Un jour, ils ont perdu un singe qui s'est échappé. Assez dangereux, quand même. Et lui, il lui a mis la main au collet, comme ça, pour le rattraper. Sauf que le singe s'est retourné, il a mordu le bras. Et à l'époque, voilà, il n'y avait pas d'antibiotiques et tout. À force, il a fallu couper la main, quoi. C'est pour ça qu'il n'avait qu'une main. Mais moi, j'ai entendu dire quand même que, en n'ayant qu'une main, il arrivait à travailler comme s'il avait les deux, quoi.
Il y en avait un frère à mon grand-père, qui a été tué là-bas, à côté de New York. Ils avaient campé, avec l'ours, dans une ferme, et le propriétaire de la ferme, il leur a dit de partir. Puis ils ont continué à manger autour du feu, et lui et l'autre, il a tiré sur le feu. Et un de mes oncles, grand-oncle, a été touché, et il est mort de suite après, quoi. Voilà. Il était jeune, il avait 25 ans. Quoi. Ils avaient envoyé les deux pistolets qu'il avait, deux Colt 45 de l'époque. C'était des revolvers à 6 coups. Ils avaient tous des pistolets là-bas, à la ceinture. Vous savez, les armes là-bas, c'est comme un briquet ici. Oui, oui.
De Cominac, il est arrivé aux États-Unis à 19 ans avec un ours et qui s'est engagé dans l'armée américaine.
Françoise Lewis.
Et là, ils l'ont envoyé combattre les Cheyennes et les Sioux. Et c'était la guerre la pire des États-Unis.
Oui, oui.
La plus horrible.
La plus horrible, oui. Oui, oui.
Et finalement, ce jeune Mercer, il a déserté l'armée.
Comme ils étaient grands, costauds, et ils les recrutaient pour aller faire la guerre.
Je suis à me reposer depuis 3 mois, à cause de la chaleur. L'ours a eu les pieds brûlés dans le Nouveau-Mexique. Et c'est ce qui l'empêche de travailler. Il paraît se guérir un peu. Et je crois pouvoir reprendre le voyage dans peu de temps. Ma mère est-elle bien portante? Et le restant de la famille? Que faites-vous? Avez-vous de bonnes récoltes? Êtes-vous satisfait de vos peines et récompensé de vos travaux? Comment vont les affaires de la maison? J'ai appris dans le Mexique que le bien de mon oncle s'était vendu. As-tu touché quelque argent de ces 500 francs que j'avais versés à Saint-Girons pour payer des dettes de nos parents? Dans ta première lettre, tu m'as dit que tu avais acheté la combe de Juan d'Aliès. Mais tu ne m'as pas dit le prix. Et j'aimerais bien le savoir. Par conséquent, dis-le-moi dans ta réponse. Dis-moi aussi si Pierre Co, ou Yaret, a écrit et dans quel pays il voyage. Il y a 3 semaines que nous avons passé la frontière du Vieux-Mexique et du Nouveau. Il y a 3 ans qu'il n'y a pas plu. Aussi, est-on dans une misère énorme. On perd beaucoup d'animaux de soif ou de faim, l'herbe ne pouvant sortir à cause de la sécheresse. Aussi, avec mon camarade, quoiqu'ayant de l'argent dans la poche, on a enduré de la faim, faute de trouver de quoi acheter. Enfin, on s'en est sorti tout de même. Tu salueras pour moi Janco, meunier, ainsi que son fils, mes parents, voisins et amis, et ceux qui demandent de mes nouvelles. Embrasse pour moi ma bonne mère, ainsi que toute la famille. Et reçois toi-même l'assurance de mes meilleures salutations. Ton frère dévoué, Jacques Fort. Tu adresseras ta lettre à Denver, Colorado, Post Office, Amérique du Nord.
En tant que montreur d'ours, je pense qu'ils ont continué jusqu'à la guerre de 14. Alors, beaucoup dans des cirques.
Pierrette Icard.
Et aussi dans ce qu'on appelait aux États-Unis les dim museums, c'est-à-dire des lieux de spectacle où le public payait une dîme, un pourcentage d'un dollar, enfin une somme tout à fait minime, et toutes les heures, les spectacles se renouvelaient. Donc beaucoup d'entre eux ont travaillé aussi dans ces cirques, et puis l'activité n'a pas résisté à la vie moderne, en fait, à la circulation. Donc on passe de... On montre les ours un peu partout, y compris dans les grandes villes, ensuite les cirques, et ensuite on se reconvertit dans l'hôtellerie-restauration.
En 1921, ils sont arrêtés. Les États-Unis, ils n'ont plus le droit. Alors tout le monde s'est mis à la restauration, dans les hôtels. C'était soi-disant dangereux.
Claude DGI.
Voilà, et alors ils se sont mis tous dans la restauration, et de fil en aiguille, tout l'année, les descendants, et ils allaient là-bas. C'est-à-dire avec l'échange du dollar, ils faisaient beaucoup d'argent partout. Et tout le monde a été là-bas. Mes parents étaient aux États-Unis. Ils sont rentrés en 1927. Mon grand-père avait des terres ici, mais mon père en a racheté pour se grandir.
Et vous auriez pu être éleveur alors?
Mais moi j'étais, oui, on était éleveur, mon père était éleveur, et moi jusqu'à 18 ans, et puis je suis parti là-bas. Mes soeurs étaient déjà là-bas, on est parti. Et moi, je suis resté 15 ans en tout.
Quelle était votre vie là-bas?
Je travaillais dans la restauration. J'ai commencé comme commis à 18 ans. Et puis, j'ai serveur et puis maître d'hôtel. Voilà. J'ai travaillé dans des grands hôtels. Je l'ai vu construire et puis j'ai travaillé 4 ans. L'hôtel, à l'époque, il s'appelait l'Americana, qui est maintenant le Sheraton. 2000 chambres, il y avait. Et puis Hilton a construit à côté 2400 chambres. Je l'ai connu, le fondateur, il s'appelait Conrad Hilton. Et à l'époque, moi j'avais 22 ans, lui il en avait 85, et il venait manger dans son hôtel tous les soirs. Il était gentil.
Et vous avez rencontré beaucoup d'Ariégeois là-bas?
Oh oui, boulala, oui, oui. Mais il y en a plus qui sont morts là-bas qu'il y en a ici. Ils sont enterrés là-bas. Ah oui.
J'en parlais parfois avec ma grand-mère. Elle me disait qu'on leur avait proposé d'acheter des terrains à Manhattan et qu'ils avaient choisi, au contraire, de venir acheter des terrains là-haut, sur la montagne, voilà.
J'annonce à Sembarkach, ramar sa coûte jabo et rabau et rapo, jauprenek et ajouske parlek. J'annonce est embarqué. La mer secouait le navire, la peur le prit, et il dit à son ours, « Qu'avons-nous fait tous deux de quitter nos montagnes? Maintenant, il nous faut prier pour qu'un jour, nous puissions revenir. »
C'était « La vallée des montreurs d'ours », deuxième épisode « Des paillettes et des ours ». Avec Claudine Paillès, historienne, et les habitants de la vallée du Couserans et descendants de montreurs d'ours, Bernadette Rogal, Pierrette Icard, Françoise Lewis, Patrice Rieux, Claude Dégeil, Adrien Ponsol, Gabriel Benazet et Michel Pujol dans le film La vallée des montreurs d'ours de Francis Fourcault. Attachée de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. Mixage Mathieu Tourin, un documentaire de Marion Touboul, réalisé par Thomas Duterre.